Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Il est 6h12, c'est RMC. Nous sommes en direct et c'est le week-end. J'espère que vous l'avez remarqué quand même. Et ce week-end, eh bien, nous vous proposons de le passer en tout cas une bonne partie ensemble avec vos experts qui sont là demain dimanche, l'automobile avec Jean-Luc Moreau, bien évidemment. Et aujourd'hui, attention, pendant quelques semaines, votre week-end des experts sera écourté, les amis, puisqu'à partir de 9h, vous pourrez suivre la Coupe du Monde de rugby qui se déroule donc au Japon et avec le décalage horaire. Paf, une heure en moins, ça sera entre 9 et 10, à la fois le samedi et le dimanche. Donc une heure d'automobile en moins et donc pas de rendez-vous vie numérique avec Raphaël Grabli. Mais autrement, tout le reste sera là. La forme, la santé tout à l'heure, ce sera avec Christian Riquet. On évoquera entre autres les bienfaits du pain. Bon, une fois que Christian va nous mener à la baguette, ça fait plaisir. Waouh, je l'ai calculé depuis hier soir celle-là, c'est pour ça. La maison, eh bien on évoquera la période des brocantes et des vide-greniers qui bat son plein en septembre. Est-ce qu'on peut faire encore de bonnes affaires, tiens, durant les brocantes? On verra ça avec Christian Pessé et nos invités. Mais pour débuter, il est à mes côtés comme chaque samedi. Il débute en fanfare notre week-end des experts. C'est Patrick Mulan et c'est le jardin. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous, très bienvenue au jardin, toujours estival, et moi je suis le débutant de la journée.
Le débutant, non pas le débutant, c'est vous qui ouvrez le bal en quelque sorte, mon cher Patrick. Votre expertise dans le domaine du jardin, on l'apprécie tous les samedis, donc entre 6 et 7 sur RMC, et vous pouvez d'ores et déjà appeler Patrick Mulan pour toutes vos questions jardin au 32-16. Tout à l'heure, on reviendra sur vos coups de cœur de cette semaine, on ne pourra pas passer à côté des journées du patrimoine hein, qui se déroulent ce week-end. C'est un grand rendez-vous, forcément.
C'est là que je voudrais surtout insister sur le fait que le jardin doit être absolument intégré dans le patrimoine. C'est pas encore quelque chose de franchement officiel, même si il y a des jardins ouverts pendant cette journée. Vous savez qu'on a aussi notre petite journée du patrimoine avec les rendez-vous au jardin au mois de juin. Mm-hmm. Mais quand même, pensons que les jardins sont des sortes de chefs-d'œuvre en péril et qu'ils sont nécessairement à protéger, parce qu'en 2-3 ans, un jardin qu'on a mis 40 ans pour le construire, eh bien, il se détruit. Alors
bien sûr,
un monument, ce n'est pas la même chose.
On en parle tout à l'heure. Et puis notre sujet de ce samedi matin, on saura tout sur les asters, ces petites fleurs vedettes de l'automne.
Ah oui, c'est mignon comme tout. Il y en a plein de sortes, des petits, des grands. Ça fourmille de partout et c'est très beau. Donc on va expliquer un peu comment on peut travailler avec tout ça.
La météo du jardinier, vous avez analysé les cartes de Météo France. Est-ce qu'on va voir enfin l'arrivée de la pluie, Patrick?
Ça arrive, a priori.
Ça arrive.
Oh là là. Météo France est assez confiant, puisque jusqu'à jeudi, on est avec des 4 sur 5. Donc, on peut penser qu'on va avoir tous un peu d'eau, oui.
Et ça, c'est franchement une bonne nouvelle, hein, quand même. Hein.
Ah, là, il y en avait besoin.
Et je vous le rappelle, donc, dès maintenant, vous pouvez nous appeler 3216 pour poser vos questions jardin. 3216, le standard RMC. On vous attend, Patrick est fin prêt pour répondre à toutes vos questions. Et puis vous avez aussi l'appli RMC et Direct Studio. Via votre smartphone, vous pouvez nous poser votre question avec votre numéro de téléphone. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on va commencer par le conseil de l'expert de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et Patrick, on va évoquer ce matin les biostimulants. Et déjà, vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que le matin, à cette heure-ci, on n'est pas trop stimulé. Donc, il va falloir quand même que vous nous expliquiez.
On va vous en donner un peu de biostimulants.
Biostimulants. Et puis surtout, comment les utiliser, donc?
Voilà. Alors déjà, la semaine dernière, on avait parlé de biocontrôle.
Oui.
Donc là, le biocontrôle, c'est par rapport à la protection des plantes contre les bioagresseurs. Le biostimulant, on pourrait confondre, hein. Le biostimulant, lui, il va jouer un rôle de fertilisant. Il va être une sorte d'accélérateur des engrais, par exemple, il va être une sorte de catalyseur ou d'optimisant pour les engrais. Il va aussi permettre à ce que les conditions, on va dire biotiques, c'est un mot un peu compliqué,
ouais,
les conditions de vie de la plante soient optimisées.
Donc, comment agit en fait un biostimulant sur la plante?
Alors, c'est assez complexe. Ça peut renforcer l'activité hormonale de la plante, donc on va dire son métabolisme. Ça peut aider à l'assimilation des produits engrais, donc des éléments nutritifs. Ça peut favoriser la croissance et donc ça va permettre à la plante de mieux absorber les éléments minéraux dont elle a besoin et qu'elle va trouver dans le sol. Ça va permettre aussi, alors ça c'est très important, c'est d'améliorer les critères de qualité des produits qu'on va récolter. Par exemple, vous pouvez avoir un renforcement de la teneur en sucre, c'est valable sur les melons, sur les fruits par exemple, ou en lipides, quand on fait des produits oléagineux, que l'on veut avoir une grosse teneur en huile, par exemple sur les tournesols. La couleur, pour les fleurs de jardin, c'est intéressant, et même la conservation des fruits, puisqu'en fait on a besoin aussi que les fruits tiennent bien dans le temps. On va avoir aussi, par les biostimulants, une activation de l'action microbienne dans le sol, donc pour transformer la matière organique en humus notamment, donc rendre le sol vivant. Et on va aussi permettre à ce que le sol, dans sa constitution, accélère la dégradation des composés organique en éléments chimiques, parce que je rappelle que même si le mot chimique est devenu une sorte de peste aujourd'hui, c'est quand même sous cette forme-là que les plantes fonctionnent et qu'elles ont besoin de leurs éléments nutritifs. Et puis enfin, on va avoir quand même, alors c'est un effet indirect, parce que sans ça on serait dans le biocontrôle, mais quand même une inhibition chez certains bioagresseurs. Pourquoi ? Parce que la plante, en se renforçant, en étant un petit peu plus costaud, eh bien, va faire en sorte...
Se défendre mieux contre les bioagresseurs.
Mais aussi son environnement. C'est-à-dire qu'en améliorant les qualités du sol, on peut rendre le milieu moins attirant ou moins efficient pour les bioagresseurs. Donc c'est assez subtil, mais c'est extrêmement important.
Ah oui, et puis c'est passionnant surtout. Oui. Pourquoi est-ce que les biostimulants sont encore peu nombreux et méconnus ? On n'en parle pas souvent. Hein.
Bah parce que c'est compliqué. On le voit déjà avec tout ce que je viens de vous décliner. Donc ces substances qui existent, parce qu'en fait, attention, hein, quand on parle de biostimulants, c'est des choses que l'on va trouver dans la nature et qu'il va falloir extraire. Le problème, c'est qu'on les trouve pas forcément. On sait que ça existe, on se dit, tiens, là, il y a des choses comme chez nous, par exemple, chez les humains, on a des éléments qui sont nos protecteurs naturels. Ben là, il faut qu'on les trouve. Et une fois qu'on a trouvé comment l'action se produit chez la plante, ben l'enjeu, c'est de trouver une formulation qui soit possible, à la fois pour utiliser le produit au bon endroit, parce que vous pouvez stimuler les racines, vous pouvez stimuler les feuilles, vous voyez, vous pouvez stimuler plusieurs choses. Donc il faut que ça soit au bon endroit, et puis au bon moment, c'est-à-dire savoir exactement à quel moment la plante en a besoin, et puis surtout obtenir une efficacité. Donc c'est très compliqué pour en faire un produit simple, surtout pour les amateurs, et c'est pour ça qu'au niveau du jardinage, on n'en utilise pas encore énormément, alors que ça commence à se développer pas mal au niveau de l'agriculture.
Comment agit un biostimulant sur la plante, en fait ? Comment ça marche ?
Alors, ça marche comme une sorte de catalyseur, en fait. C'est donc l'élément qui va faire en sorte de mettre la plante dans les conditions optimales pour absorber son produit ou pour faire en sorte que le sol soit le plus adapté possible. Alors, il y a une chose que j'ai aussi oublié de vous dire. Un biostimulant, ça peut aussi aider la plante à supporter les conditions de culture, le gel, la sécheresse, la chaleur, le froid, etc. C'est vraiment quelque chose de très très important.
Comment ça se présente dans la pratique, tiens, les biostimulants ?
Alors aujourd'hui, la plupart des biostimulants...
C'est des liquides, c'est des trucs qu'on...
Oui,
qu'on...
alors il y en a beaucoup en liquide qui sont appliqués en pulvérisation foliaire, ça c'est ce que l'on trouve le plus souvent. Mais ce sont aussi, pour les jardiniers amateurs, on n'en trouve pas. Vous ne pouvez pas aller à la jardinerie et dire je voudrais du biostimulant. Vous allez le trouver à l'intérieur des engrais, sous forme de micro-organismes.
Ah d'accord, c'est temps. Déjà intégré dans...
Oui. Ou alors, on verra tout à l'heure éventuellement, il y a déjà des biostimulants qu'on utilisait avant et qu'on ne savait pas que c'en était, si vous voulez. C'est un peu, on fait de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain. Mais globalement, on peut aussi avoir des micro-granulés. Alors, ce qui peut être intéressant, je pense qu'on en aura bientôt, ce sont des pastilles ou des granulés qu'on va mettre au moment du semis ou de la plantation, justement pour améliorer les conditions du sol. Mais le plus simple pour les amateurs, c'est soit dans le terreau, soit dans l'amendement organique. L'amendement organique, vous savez, c'est les composts qu'on peut trouver en sac, ou alors dans les engrais.
Patrick, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous citer quelques biostimulants qu'on connaît déjà et à quoi ils servent ?
Voilà, c'est ce que je disais, il y en a quand même qu'on connaît. Vous savez, le pralinage, on en parle souvent, le pralinage, c'est quoi ? C'est de tremper les racines, donc d'un arbuste ou d'un arbre qu'on plante à racines nues à l'automne, dans un milieu organique qui va favoriser justement la reprise et l'émission des radicelles. Mmh. Donc ce pralin, c'est un biostimulant. On parle très souvent des extraits d'algues. On sait qu'on met souvent des algues aussi dans les composts, etc. Ça, c'est un biostimulant. Et puis, j'en parle aussi souvent, les mycorhizes que l'on trouve de plus en plus dans les terreaux, donc qui sont ces champignons qui vont se greffer naturellement, qui vont rentrer en symbiose avec les racines et qui vont justement aider les plantes à mieux absorber leurs éléments nutritifs et surtout à mieux résister à la sécheresse. Et puis tout l'ensemble des micro-organismes que l'on trouve, comme je disais, dans les engrais et les amendements.
C'est cher tout ça, les biostimulants ou pas? Est-ce que ça augmente par exemple le prix de l'engrais ou est-ce que finalement...
C'est-à-dire que c'est comme dans une voiture, quand vous ajoutez un élément...
C'est un peu comme le carburant premium, quoi. On va dire qu'il y a une petite surtaxe.
Alors vous êtes totalement dedans. C'est vrai que un engrais avec biostimulant va être un produit premium, évidemment.
D'accord. Patrick, on revient dans un instant. Passionnant, hein, ces biostimulants. Est-ce que ça vous stimule pour poser des questions? Eh bien, n'hésitez pas, le 32-16, ou bien l'appli RMC Direct Studio. Toutes vos questions jardin, vous en avez forcément, c'est le moment ou jamais. On vous attend donc, 32-16, sur votre smartphone Direct Studio. Si vous nous posez votre question, laissez-nous votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler dans la minute qui vient. Merci d'être avec nous, c'était RMC, à tout de suite.
RMC, 6h-7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Il est quasi 6h30, c'est RMC. Un grand bienvenue à vous et merci de nous suivre. Le week-end des experts, le jardin avec Patrick Mulan. Dans quelques instants, vous allez tout savoir sur les asters, les fleurs vedettes de cet automne. Mais auparavant, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Michel qui est avec nous au 32-16. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour à votre équipe, bonjour à tous.
Bienvenue Michel sur RMC.
Merci, merci, pareillement, c'est gentil.
Vous êtes en Gironde, Michel?
Voilà, je suis en Gironde et comme j'ai pu vous expliquer, j'ai des soucis avec le moucheron. Alors, on a beaucoup de guêpes, mais on a surtout beaucoup de frelons. Vous avez pu voir la photo. Frelons, je mets des pièges que je les mets tous les deux, voire tous les trois jours à certains moments. J'enlève dans ces pièges, je récupère des frelons, je récupère quelques guêpes, pas énormément de guêpes, c'est surtout des frelons, beaucoup de mouches, des moucherons éventuellement dedans, et des papillons blancs, que je connais pas ce que c'est que ces genres de papillons blancs. Là, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est des papillons qu'on voit la nuit, surtout. Et alors, le problème, c'est que lorsque les figues sont piquées, aussitôt, vous avez les moucherons qui pénètrent à l'intérieur, et en 24 heures, la figue, elle est perdue. C'est du vinaigre. Et alors, elle tombe, et alors, ça me fait un dégât considérable. Ce qui fait qu'on a cette année, on aurait beaucoup de figues, et en fait, on réussit à en récupérer très, très peu.
Ben ça, j'ai pas grand-chose à vous raconter là-dessus, parce qu'en fait, vous expliquez ce qui est en train de se passer et qui ne va pas s'améliorer, il faut bien le dire, puisque aujourd'hui, nous avons des institutions et des politiques qui pensent qu'il suffit de regarder, entre guillemets, les mouches volées et que tout fonctionne à merveille dans la nature et que l'on empêche donc des actions, notamment contre les insectes, puisque en fait, alors ça c'est pas mal, on essaye de protéger les bons, mais ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à sélectionner les bons des mauvais et avoir à cibler les mauvais. Et vous le faites très bien d'ailleurs, je vais dire, parce que en piégeant les frelons, comme vous le faites, on va dire d'une manière mécanique, d'une manière presque naturelle, eh bien vous allez quand même réduire d'une façon importante les populations de ces frelons. Alors, ce qui serait le plus efficace, évidemment, ça serait d'essayer de trouver les sources, donc de trouver les nids de ces frelons pour les éliminer, de manière à ce que la reproduction ne puisse pas se faire, parce que là, ce que vous piégez, ce sont pas forcément les sujet fondateur des colonies, mais vous n'avez pas aujourd'hui, à cause de la législation en vigueur, de possibilités autres pour agir vraiment que ce que vous faites. Alors, hormis la possibilité, et ça je pense que ça va se développer, d'appliquer, de d'envelopper votre figuier. Alors c'est vrai que c'est un arbre important avec des filets, comme le font aujourd'hui les producteurs d'arbres fruitiers, enfin de fruits, parce que quand vous regardez les plantations de pommiers ou de pêchers, etc., aujourd'hui, eh bien vous avez des installations qui permettent de mettre à l'abri les arbres fruitiers sous des filets dans lesquels les mailles sont suffisamment fines pour empêcher la pénétration des insectes. Alors les moucherons, c'est plus embêtant parce que c'est vraiment très 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 petit, mais globalement, je ne peux pas vous donner une recette absolue au niveau de cela. Il existe encore un insecticide naturel qu'on appelle le pyrèthre naturel qui a une efficacité réelle. Le problème du pyrèthre naturel, c'est que il n'est pas sélectif. Donc il faut vraiment l'appliquer au moment où vous n'avez que des moucherons, inintéressants et des frelons à éliminer. Et surtout que vous n'ayez pas des insectes pollinisateurs, par exemple. Bon, sur les figues, ça ne se fait pas, puisque la figue, en fait, c'est une sorte de fleur enveloppée avec une sorte de protection qu'on appelle la peau de la figue. Enfin, ce n'est pas un vrai fruit, la figue. Mais malheureusement, je veux dire, aujourd'hui, votre situation, elle est ce que vont de plus en plus subir les jardiniers amateurs parce
que... On parlait de biocontrôle la semaine dernière, il n'y a rien du tout là-dessus ?
Alors le biocontrôle n'est que naissant, donc on va peut-être avoir... Alors on peut dire que l'action que fait Michel va dans le sens du biocontrôle, avec un piège, avec un attractif naturel, par exemple sur les guêpes, c'est extrêmement facile, avec du jus de viande, par exemple, que vous mettez donc dans des récipients sur lesquels les guêpes et moins les frelons. Les frelons, ils sont attirés quand même par le sucre un petit peu. Mais les guêpes, on va les piéger très très bien avec du jus de viande dans de l'eau, dans des bouteilles à l'ancienne, et puis hop, ça tombe là-dedans. Donc ça s'appelle une méthode de biocontrôle.
Mais on va simplement réguler un peu la population, quoi, pas les éliminer.
C'est ce qu'on cherche aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on a par exemple des invasions de moucherons, j'ai entendu hier quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'il avait vu des criquets dans le midi. Alors là, on rentre dans des risques majeurs, les criquets.
Parce que les criquets, ça mange, c'est vorace. Hein.
Alors quand on vous dit, par exemple, qu'il faut faire en sorte de faire des conditions écologiques qui permettent aux plantes de se développer de manière optimale dans les jardins et que du coup, vous n'aurez pas de bioagresseurs, on se met le doigt dans l'œil. Je suis désolé d'être un peu trivial, mais c'est la réalité. Donc quand vous avez des criquets qui vont arriver, plus les plantes seront en bonne santé et plus ils vont envie de les boulotter. Donc attention quand même, je mets en garde, ça fait des années que je le dis, je passe peut-être pour un vieux rétrograde, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, mon cher Michel, je suis désolé de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous donner. Essayez quand même le coup des filets si c'est possible, parce que ça, aujourd'hui, ça reste la seule efficacité pour se protéger les fruits complètement.
Mais c'est les figuiers qui ont un diamètre facilement 10 mètres.
Oui, voilà, mais c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'ai vu sur vos photos. Et je dis pour vous,
c'est quasi impossible d'installer, par exemple.
Compliqué.
Vous parliez des filets tout à l'heure, enfin, ces petites.
C'est des grands filets. Alors, soit on met des armatures, comme les professionnels, eux, ils mettent des armatures métalliques sur lesquelles les filets peuvent être tendu ou retiré de manière à ce que, en fonction des besoins, on puisse vraiment les mettre en place.
C'est vrai que pour un particulier,
pour les particuliers, c'est compliqué. Ou alors, il va falloir qu'on cultive les plantes de manière plus compacte. Alors là, on a des vieux figuiers, c'est très, très compliqué, mais un figuier, ça peut se tailler, ça peut faire un buisson. Il produira évidemment moins.
Mais on maîtrisera,
mieux
son écosystème autour.
C'est quelque chose qu'on faisait depuis très longtemps, par exemple, sur les framboisiers. Parce que les framboisiers sont souvent attaqués par les guêpes, par tout ça. Bon, avec un filet, ça marche.
Merci Michel pour votre appel. Il est 6h36, c'était RMC. Il est temps d'en trouver notre dossier de ce samedi matin. Écoutez.
L'air d'automne, ton sourire est merveilleux, nous rêvons.
On parle des fleurs d'automne avec cet interprète qui s'appelle l'abbé Paul, tu nous as dit. L'abbé Vauquet. Vous connaissiez Patrick ?
Non.
Non, moi non plus.
Laurent ?
Je ne sais pas si c'est lui, si c'est l'abbé Vauquet. Mais c'est bien déprimant. Hein. Vous écoutez ça pendant 5 minutes. Là, vous êtes cuit. Alors, Patrick.
On va essayer de redonner un peu de dynamique.
Allez, on y va. On va parler donc des asters, ces fleurs vedettes justement de l'automne, d'où l'incursion de notre abbé, dont on va détruire le disque là dans les secondes qui viennent. Et quelle est l'origine de ce nom aster, tiens ?
Alors aster en grec, ça veut dire étoile. Et en fait, on a bien des fleurs en forme d'étoile que l'on appelle en botanique des capitules, et c'est le fameux naturaliste Carl von Linné qui, dans son grand Systema Plantarum, là c'est un livre monumental qu'il a écrit en 1753, il avait créé donc les noms de très nombreuses plantes, et donc en raison de la forme bien rayonnée de cette fleur, eh bien il l'a appelé aster. Alors l'aster a donné son nom aujourd'hui à la famille des astéracées, qu'on appelait les composés dans le temps et qui sont très très importants. Il y a presque 20 000 espèces, mais on connaît la marguerite, la pâquerette, le tournesol, le dahlia, le chrysanthème, le souci, la centaurée, le zinnia, tout ça. Mais il y a des légumes aussi chez les astéracées, la laitue, le pissenlit, l'artichaut, la chicorée, le topinambour, tout ça, ça fait partie de la même famille.
Alors rappelons que l'aster, ce sont ces petites marguerites dans les tons bleus, mauve, blanc, rose ou rouge.
Qui fleurissent en ce moment.
Quelles sont les plantes que l'on nomme aster, tiens, justement?
Alors là, si on veut faire de la botanique, vous allez voir, on va s'arracher un peu les cheveux. Parce que, il y a des vrais asters, donc le genre aster, il y avait 250 espèces, il y en a un peu moins maintenant. Donc l'aster d'Italie, l'aster des Alpes, l'aster éricoïde, tout ça, ce sont des plantes que l'on cultive vraiment sous leur nom aster, qui fleurissent aussi en automne. Mais la plupart de ceux que l'on voit dans nos jardins aujourd'hui, alors accrochez-vous aux branches, mon cher François, ont changé de nom en 1995 et ils s'appellent Symphiotrichum. Oui, merci, on était facile avec aster, maintenant ce sont des Symphiotrichum. On va continuer à les appeler nous aster, ça sera quand même plus simple. Mais il y a d'autres plantes pour bien nous embrouiller, dont on donne le nom français, le nom vernaculaire, aster du Cap, par exemple. Vous savez, c'est toute petite fleur bleu pâle que vous avez énormément dans le Midi, qui fleurissent tout l'été avec un cœur jaune, qui sont des Felicia. Parfois, le cosmos, on l'appelle aster du Mexique. Parfois, la reine Marguerite, on l'appelle aster de Chine. Donc, on est dans une sorte de brouhaha, évidemment. Dès qu'on a un nom français, on mélange un tout petit peu tout cela. Mais on va parler aujourd'hui plutôt des Symphiotrichum. Je suis désolé.
Alors, pourquoi on parle des asters d'automne? Quelles sont leurs qualités principales, tiens?
Alors déjà, il n'y a pas tant de plantes que ça qui fleurissent à la fin de l'été et qui vont fleurir jusqu'à fin octobre, pratiquement. Il y a une palette de couleurs qui est quand même intéressante, vous l'avez dit tout à l'heure. Elle est très très large, avec des nuances vraiment importantes. Par exemple, dans les bleus, on n'a pas énormément non plus de fleurs bleues. Il y a des vrais asters très très bleus. C'est très facile à cultiver, ce sont des plantes vivaces, donc qui vont revenir plusieurs années de suite. Tout à fait rustique, ça tient jusqu'à moins 20 degrés. Et puis, on a des formes variées. Il y en a qui font 30 cm de hauteur, d'autres 50, d'autres jusqu'à 1,50 m. Donc vous avez aussi la possibilité de couper les fleurs d'aster sur les grands asters pour avoir des bouquets qui tiennent environ une semaine. Et puis n'oubliez pas, ça reste des plantes mellifères qui attirent donc les butineurs et les papillons. Donc c'est assez intéressant au niveau de l'écologie du jardin.
Quels asters vous pouvez nous conseiller pour la culture en pot ou en bordure, Patrick?
Je disais qu'il y en avait des petits. Et oui, vous en avez deux sortes. Alors, il y a la marguerite. Vous voyez, alors ça aussi, encore les noms français. La marguerite de la Saint-Michel. C'est un aster. C'est Aster amellus. Et à partir du mois d'août et jusqu'à fin octobre, vous avez des petites fleurs. Alors, toujours ces petits capitules de 3 à 5 cm de large. Toujours avec un disque jaune au centre. Et vous avez l'aster buissonneux ou l'aster nain, aster du Mosus, qui fait un coussin, lui, assez compact, qui fait 30 cm en moyenne, un peu plus haut parfois, et avec des fleurs doubles aussi jusqu'à octobre, et très large palette de couleurs. Ça, c'est les petits.
Est-ce que c'est le bon moment pour les plantes et les asters?
Oui, vous allez trouver quand même s'ils sont en fleurs. Alors, l'idéal, bien entendu, c'est de les avoir plantés au printemps. Mais on trouve plus d'asters en ce moment, et notamment des asters dans des pots assez importants. Parce que je vous déconseille plutôt d'acheter des trop petits godets. Les plantes qui sont pas encore très très bien racinées, qui ont été juste bouturées, et qui sont encore un peu faibles. D'abord, bon, elles sont pas très spectaculaires, et elles risquent, si jamais l'hiver est un peu difficile, bah de pas aimer bien, parce que je vous disais, ça tient à moins 20 degrés, mais quand c'est jeune, ça a quand même besoin d'une petite protection. Alors achetez plutôt un bon conteneur, par exemple une plante dans un litre, hein, vous savez, un conteneur de 1 litre, c'est un conteneur qui fait quoi, une douzaine de centimètres, quinzaine de centimètres de diamètre, et là, ça sera quand même beaucoup plus costaud. Alors en ce moment, on va trouver encore une fois les Astas de Nouvelle-Angleterre et de Nouvelle-Belgique, donc ceux qui sont très très grands. Il y en a qui sont plus légers que d'autres, donc ça c'est à votre choix, mais vous allez dans des jardineries, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, oui. Donc c'est le moment, voilà, ce rendez-vous dédié aux Astères que l'on dédicace à Fred, forcément, parce que
je n'avais pas pensé, mais ça s'écrit pas pareil.
Non, en plus. On est, écoutez, à la radio ça passe, en tout cas, comme il y a pas d'orthographe.
Un petit coup, n'oubliez pas de bien les arroser au moment de la plantation,
c'est super important. Très bien. Il est 6h42, c'est RMC, on revient dans un instant. Météo du jardinier et vos questions au 32-16 pour terminer en beauté cette heure dédiée au jardin. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Et dans un instant, la météo du jardinier avec Patrick, bien sûr, mais auparavant, c'est Nicole que l'on accueille avec beaucoup de plaisir. Nicole qui nous a contacté via Direct Studio il y a quelques minutes, via l'appli RMC sur le smartphone et qui maintenant se retrouve avec nous au 32-16. Bonjour Nicole.
Bonjour, bonjour Patrick et bonjour François, Nicole. Contente de vous avoir.
Eh bien, c'est un plaisir partagé Nicole, on vous écoute.
Voilà, donc j'ai planté de grands lys. Et chaque année, j'ai l'impression qu'ils dépérissent. Il y a toujours une grande tige, une belle tige, mais au bout, maintenant, j'en ai plus qu'une fleur au lieu d'en avoir 4 ou 5. Alors, je voulais savoir comment il faut les entretenir, à quel moment les couper, quoi couper, voilà.
Alors, sur les lys, vous avez souvent un petit insecte qui s'appelle la cryocère qui vient faire des dégâts et qui peut vraiment, on va dire, nuire à la force de la plante. Donc c'est un petit insecte qu'on repère assez facilement, c'est un coléoptère de couleur rouge vif et qui va consommer surtout les feuilles mais parfois aussi un peu les tiges. Alors, il y a une chose aussi sur les lys, c'est que ce sont des plantes à bulbe et que toutes les plantes à bulbe, elles ont tendance, si on ne les retire pas du sol, si on les laisse se naturaliser, elles peuvent dégénérer petit à petit, surtout si c'est des lys hybrides. Alors, on a deux types de lys, il y a les lys asiatiques, il y a les lys américains. Les lys asiatiques sont beaucoup plus frileux. Alors, c'est assez facile à distinguer les uns des autres. Les lys asiatiques ont plutôt les fleurs qui baissent du nez, enfin qui retombent, ils sont assez grands. Les lys américains ont les fleurs qui regardent vers le ciel. Ceux-là sont plus compacts, ils sont certainement plus résistants. Moi, mon conseil, ça serait plutôt de vous dire, après la floraison, donc on va dire dans le courant de l'automne, vous retirez les bulbes du sol et vous allez un peu comme on faisait dans le temps, on le fait plus trop aujourd'hui, mais ça serait toujours bien de le faire, qu'on le faisait avec les dahlias, qu'on faisait aussi les tulipes au printemps, voilà, pour pouvoir laisser le bulbe dans un endroit sombre, sec, pas trop chaud, pour qu'ils dorment tout simplement. Parce que les plantes à bulbes sont des végétaux qui sont d'origine de régions où il y a des périodes de grande sécheresse. Si vous le laissez dans le sol pendant tout l'hiver et qu'il pleut beaucoup, etc., la plante, elle va perdre un petit peu de sa vigueur, voire même disparaître, parce qu'elle peut pourrir. Donc essayez de faire ça. Et puis sinon, il n'y a pas besoin de sol particulier du fait que ce soit un bulbe. Eh bien, ça a déjà les matières nutritives qu'il faut.
Patrick, merci beaucoup, Nicole, pour votre appel. Patrick, on enchaîne avec la météo du jardinier. Une semaine donc assez changeante. Hein. Il fait beau encore aujourd'hui, mais ça ne va pas durer.
Ça ne va pas durer, puisque déjà, dès demain, on va avoir donc des vents qui vont arriver sud-sud-ouest et qui vont vous apporter une dégradation générale sur tout le territoire, même si on aura encore de belles éclaircies, surtout dans la moitié nord. Attention, il y aura des orages assez soutenus dans le sud. Alors les pluies que l'on attend, elles vont faire du bien. On va avoir lundi, normalement ça sera encore un petit peu une journée sèche, mais à partir de mardi, et je vous disais en début d'émission, les indices sont à 4, donc on est vraiment dans le favorable. eh bien, on va avoir des vents qui vont être autour de 40 km heure, avec des pluies qui vont persister déjà dans la nuit et qui vont s'étaler.
Les conséquences le pour le jardin, Patrick,
c'est bien,
de tout
il faut
ça.
Laisser, là, il faut laisser la terre s'imbiber. On avait beaucoup de mal à la travailler, donc on va pouvoir commencer à reprendre les plantations, justement, pour l'automne, pour l'hiver, voire pour le printemps au niveau de certains légumes. Donc vraiment, c'est le moment de repartir au jardin. Je vous signale qu'il y a déjà les bulbes de printemps qui sont en vente dans les jardineries. Donc tout ce qui est tulipes, narcisses, jacinthes,
on peut commencer.
Etc. On va commencer. Commencez plutôt par les plus précoces. Par exemple, tout ce qui est persenneige, tout ce qui est aconites d'hiver, crocus. D'abord, et puis après, vous planterez les narcisses et les tulipes et les jacinthes en octobre.
Parfait. Allez, on termine avec votre coup de cœur pour ce samedi matin, Patrick, et on évoque les journées du patrimoine.
Il y a déjà les journées du patrimoine, ça, il faut le savoir. Bon, là, le thème, c'est art et divertissement. Donc, c'est plutôt les arts du siècle, tout ça, les arts de rue et tout. Mais, encore une fois, les jardins sont des éléments du patrimoine. Donc, il faut que nous, les jardiniers, on le brandisse haut et fort et qu'on fasse un jour ou l'autre reconnaître à nos pouvoirs publics l'intérêt et surtout la fragilité des jardins pour les inscrire, ou du moins en inscrire certains, au patrimoine. Alors, il y a énormément d'animations partout. Vous avez un site qui est journeedupatrimoine.culture.gouv. Vous pouvez aller trouver dans votre région ce qui s'y passe. Et puis, je voulais un demi-coup de cœur pour... Alors, c'est pas un livre, c'est trois volumes ensemble qui s'appellent « Vivre avec la terre » de Perrine et Charles Hervé Gruyet chez Actes Sud. Alors, c'est vraiment... un monument, et pour ça j'avais un coup de cœur, parce que avoir fait un tel travail, vous avez plus de 1000 pages, 100 chapitres, 1200 photos, des illustrations, des tableaux, tout ça, il y a plein de trucs. En revanche, on peut être mitigé sur le fond de l'ouvrage, parce que c'est un plaidoyer, mais totalement utopique pour un changement radical de mode de vie, avec un nouveau concept que les auteurs ont créé qui s'appelle l'écoculture et qui se fonde sur l'imitation des systèmes naturels. J'arrive pas de dire qu'un jardin ou qu'une culture, ce n'est pas naturel. À partir du moment où on comprend cela, on est dans un autre monde, parce que la nature ne fait pas forcément bien les choses et la nature ne vous nourrira pas. Il faut pas être utopiste. En revanche, bon ben vous avez tout ça, il y a des micro-fermes, il y a des tas de trucs, c'est rigolo, c'est même savant parfois, mais franchement, c'est très 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 décalé. Voilà.
Merci Patrick. Patrick, on se retrouve samedi prochain, vous le savez, 6h-7h sur RMC, votre rendez-vous jardin. Évidemment, vous pouvez continuer à poser vos questions à Patrick Mielan au 32-16, ou alors encore plus pratique via l'appli RMC et Direct Studio.
Bonjour Christian, au revoir les jardiniers.
Eh bien bonjour.
Je l'embrasse comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.